Phase 2. L'éclatement de la bulle. La bulle devient de plus en plus attractive car les prix grimpent beaucoup plus vite que la création de véritables richesses dans l'économie réelle. Dit autrement, il est beaucoup plus facile de faire un crédit à la banque et de compter sur l'augmentation des prix de l'immobilier ou de produits financiers pour s'enrichir que de créer une entreprise, de fabriquer une richesse et de la vendre. Ainsi, les spéculateurs Ponzi et modérés sont de plus en plus nombreux et les prix au sein de la bulle se mettent à croître beaucoup plus vite que le PIB. Mais la bulle ne peut pas être un mécanisme autre que temporaire. A priori, les banques peuvent faire autant de promesses de mise à disposition de billets qu'elles le souhaitent. Ce n'est pas complètement vrai, mais disons qu'elles disposent d'une marge de manœuvre très importante. Le problème se situe plutôt au niveau des spéculateurs modérés qui commencent à avoir du mal à se projeter. En effet, parce que leurs revenus issus du PIB n'augmentent pas, les spéculateurs modérés vont arrêter de se porter acheteurs. Ils estiment tout simplement que l'écart de valeur entre le bien à acheter et les revenus qu'ils se sentent capables de générer via leur activité est trop important. Ils sentent qu'ils n'arriveront pas à rembourser leur crédit. Les banques de dépôt vont bien sûr essayer de les convaincre d'emprunter tout de même. Pour elles, tant que la bulle se maintient, les bénéfices sont très importants, car plus les crédits sont nombreux, plus les intérêts perçus augmentent les bénéfices. Les mensualités sont donc réduites. Par exemple, on ne paie que les intérêts sans rembourser le principal sur la première année. Les taux abaissés au minimum. Les échéances de remboursement étirées sur 20, 30, 40 ans même. Mais l'éclatement de la bulle arrive tôt ou tard. Le gisement de nouveaux joueurs entrants finit par se tarir. La bulle ne tient plus alors que par l'entrée de nouveaux spéculateurs Ponzi, a priori beaucoup moins nombreux, car il s'agit d'une activité très risquée. Nous sommes sur le fil du rasoir. Le moindre écart peut faire basculer l'ensemble de l'économie dans le vide abyssal des pertes financières. En effet, avec un support toujours plus faible des spéculateurs modérés, le nombre de joueurs entrants devient équivalent à celui des joueurs sortants. Aucun des deux camps ne domine plus dans les négociations de prix, si bien que ces derniers se mettent à stagner. Les spéculateurs Ponzi, qui, je vous le rappelle, comptent sur l'augmentation des prix pour rembourser leur crédit bancaire, n'apprécient pas du tout cette stagnation. Ils risquent très gros. Certains d'entre eux finissent par perdre patience et basculent dans le camp des vendeurs. Ils préfèrent en effet ne pas faire de bénéfices du tout, plutôt que de ne pas pouvoir rembourser leur crédit. Tout d'un coup, la balance acheteur-vendeur n'est plus équilibrée. Les vendeurs sont plus nombreux, les prix commencent à baisser. À cet instant, plusieurs mécanismes s'enclenchent. Tout d'abord, plus les prix baissent, plus le nombre de spéculateurs Ponzi qui perdent leur sang-froid augmente, ce qui ne fait que renforcer la baisse des prix. En outre, plus les prix baissent, plus les potentiels acheteurs préfèrent attendre avant de prendre leur décision. Donc le nombre d'acheteurs est réduit au minimum, ce qui renforce la dominance des vendeurs et donc accentue la baisse des prix. Les deux phénomènes se renforcent l'un l'autre. Les prix baissent, donc les vendeurs se multiplient, donc les acheteurs se raréfient, donc les prix baissent. Bref, ça ne va pas du tout. Les spéculateurs Ponzi font faillite et ne remboursent pas les banques. Celles-ci enregistrent des pertes comptables qui les rapprochent de plus en plus de la faillite. Face à cette débâcle, les banques se mettent à devenir ultra-conservatrices. On dit qu'elles deviennent « risk-averse » dans le langage de Wall Street. Elles ne veulent plus faire de promesses de mise à disposition de billets à personne. Plus de crédits, qu'il s'agisse de projets spéculatifs ou de véritables projets permettant l'augmentation du PIB. De toute manière, les entreprises et les particuliers en général, qui avaient tous, plus ou moins, fait partie des acheteurs à un moment donné, regardant avec effroi la valeur de leurs biens faire un véritable plongeon, n'ont absolument pas envie de demander des crédits. L'heure n'est plus aux dépenses et aux investissements. Une crise fictive qui fait mal pour de vrai. Il faut bien comprendre que les pertes provoquées par l'éclatement de la bulle sont purement comptables. Personne ne perd rien puisque rien n'a jamais été créé. Seule l'impression de valeur transmise par le prix diminue, mais aucun bien ne disparaît. En revanche, ce qui s'envole, c'est la confiance des agents économiques privés, entreprises et particuliers. L'éclatement d'une bulle qui n'a pas grand-chose à voir avec l'économie réelle provoque une peur de la dépense généralisée qui paralyse jusqu'à la véritable économie, le marché du neuf. Pire, les agents économiques sont désormais convaincus que c'est l'excès de dette qui a causé la crise. De leur point de vue micro, cela semble plutôt normal. Ils constatent que de nombreuses entreprises surendettées, les spéculateurs Ponzi, ont fait faillite. Ils constatent également que les dépenses sur tous les marchés, occasion et neuf, sont réduites au minimum. Les particuliers et les entreprises n'ont plus les moyens de consommer et d'investir, ce qui fait que les entreprises ont du mal à vendre leur production et que les travailleurs perdent leurs emplois. D'où vient le problème? De la dette, bien sûr. Elle paralyse l'économie et affaiblit tous les agents qui en sont prisonniers. Il faut s'en débarrasser. Sauf qu'encore une fois, cela n'arrange rien. Les remboursements de crédits bancaires ne font que détruire de la monnaie, et la forte baisse des dépenses des uns provoque la forte baisse des revenus des autres. La grosse erreur des agents économiques. Les agents économiques se trompent. Leur décision, qui encore une fois se comprend tout à fait de leur point de vue, n'en demeure pas moins la pire qui soit. La véritable cause de la crise n'est pas la dette, c'est son utilisation spéculative plutôt que productive. Ce qui a provoqué le ralentissement des dépenses, ce n'est pas le montant de la dette, c'est l'écart trop important entre ce dernier et les revenus issus de la création des véritables richesses, le PIB. Les agents économiques confondent monnaie et richesse. Ce qui appauvrit une population, ce n'est pas le manque de promesses de mise à disposition de billets inscrits sur un compte, c'est le manque de richesses tangibles produites chaque année. Ils ne réalisent pas non plus que, alors que c'est parfaitement faisable en période normale, il est impossible de décider d'augmenter ses bénéfices en période de crise. Se retenir de dépenser quand tout le monde fait la même chose ne peut provoquer qu'une diminution des revenus. Autrement dit, les agents économiques causent leur propre perte. Le problème n'est pas la dette ni son remboursement. Le problème, c'est la production de richesses réelles qui doit repartir. Or, ces richesses ne sont plus produites parce que tout le monde est convaincu qu'il n'y aura pas d'acheteurs. La seule solution, c'est de faire en sorte que les acheteurs reviennent sur le marché du neuf, et pourquoi pas un peu aussi sur le marché de l'occasion pour stabiliser les prix. Autrement dit, quel que soit le mode de financement, il faut appuyer sur la pédale des dépenses. La crise de la demande par les inégalités. Le ralentissement des dépenses, crise de la demande, peut avoir d'autres origines qu'une crise financière. Le financement des dépenses passe par l'épargne, l'accès aux marchés financiers et aux banques de dépôt. Or, que se passe-t-il quand les inégalités se creusent? Ce moment où une partie de la population voit ses revenus diminuer ou stagner au profit des plus aisés. Quand les plus aisés ne savent plus quoi s'offrir, ils investissent sur les marchés financiers. Pour que cette monnaie retrouve son chemin vers l'économie réelle, il faut donc que l'État ou les entreprises, seuls agents économiques ayant accès aux marchés financiers, y fassent des demandes de financement. Mais comme l'idéologie dominante veut que le budget des États soit à l'équilibre, on ne peut pas compter sur le secteur public. Restent donc les entreprises. Celles-ci font des projets d'investissement à partir d'anticipations de leurs chiffres d'affaires. Elles constatent ce qui se passe dans leurs magasins et font des extrapolations à partir des données observées. Or, si une partie de la population, de plus en plus pauvre, consomme de moins en moins, tandis que ceux qui en profitent ne consomment pas plus non plus, les entreprises vont observer la baisse de la consommation et en tirer les conclusions qui s'imposent. Pourquoi irait-elle chercher du financement sur les marchés financiers s'il n'y a aucun indice d'une hausse de la consommation? Même dans le cas où les plus pauvres s'orienteraient vers des solutions d'emprunt bancaire, cartes de crédit, prêts étudiants, crédits à la consommation, crédits immobiliers, afin de satisfaire leurs besoins, envies de consommation, le problème reste entier. En effet, Pour que la croissance économique accélère alors que les salaires n'augmentent pas, il faut que les emprunts soient de plus en plus nombreux et que les montants empruntés soient de plus en plus élevés. Mais pour que cette augmentation de la consommation basée sur l'emprunt perdure, encore faut-il que les banques de dépôt acceptent systématiquement de prêter et que les particuliers acceptent de systématiquement faire des demandes de crédit. Le jour où, parce que les banques estiment que le risque de non-remboursement est trop grand, ou parce que les particuliers estiment que les crédits ne sont pas remboursables à partir de leurs revenus, la mécanique de consommation par l'emprunt s'arrête, les dépenses, donc les revenus, se mettent à fléchir. Autrement dit, le jour où la consommation par l'emprunt n'est plus acceptable pour les emprunteurs ou pour les prêteurs, la croissance du PIB s'arrête et la crise économique démarre. La crise de la demande peut donc être déclenchée par une crise financière, spéculation, ou par une augmentation croissante des inégalités. Réagir à la crise 1. L'austérité. Encore une fois, le fonctionnement financier d'une économie peut se résumer à « les dépenses des uns sont les revenus des autres » ou, dit autrement, « les déficits des uns sont les bénéfices, non comptables, des autres ». En général, la première réponse apportée au diagnostic d'une crise économique est d'imposer à tous l'austérité. Pourtant, l'austérité budgétaire d'un État en pleine période de manque chronique de dépenses n'a absolument aucun sens. En effet, plutôt que d'essayer de convaincre les acheteurs de refaire surface, l'État pourrait tout simplement guider par l'exemple en augmentant ses propres dépenses. Alors pourquoi choisir la voie de l'austérité budgétaire ? Parce que la croyance en une économie autorégulatrice qui n'a pas besoin de la puissance publique est encore très présente. L'intervention de l'État est perçue comme toujours néfaste. Les économistes utilisent aussi souvent l'argument de la rareté de la monnaie pour justifier l'austérité. Ils appellent cela l'effet d'éviction. Comme si le financement du déficit public, parce que la quantité de monnaie formerait un stock invariable, ce qui est faux, priverait les agents économiques privés, particuliers et entreprises, de leur capacité d'investissement et de consommation. Or, le déficit public ne réduit aucunement la capacité des entreprises ou des particuliers à s'endetter auprès des banques de dépôt, créatrices de promesses qui servent de monnaie. Et même si c'était le cas, on imagine mal comment la décision d'un État de réduire son déficit provoquerait automatiquement une décision opposée de la part des entreprises et des particuliers. Si certains modèles économiques supposent que cette relation est automatique, il n'existe aucune preuve que celle-ci existe. D'ailleurs, c'est en se fondant sur cette hypothèse calamiteuse que les économistes du FMI imposèrent des mesures d'austérité dévastatrices en Grèce lors de la crise de l'euro. Or, la réduction du déficit public de l'État grec n'a pas du tout été compensée par une augmentation de l'endettement des entreprises ou des particuliers, ce qui a plongé le pays dans un véritable marasme économique. Merci les gars, super pointu vos modèles. Le mythe de la rareté de la monnaie. Comment les économistes peuvent-ils utiliser l'argument de la rareté de la monnaie si celui-ci est faux ? Parce qu'ils raisonnent à partir de modèles dans lesquels la quantité de monnaie est fixe. Pourquoi ne mettent-ils pas à jour leurs modèles ? Parce que ces modèles n'ont pas été conçus pour tenir compte d'un tel paramètre. Autrement dit, la mise à jour des modèles demanderait de repenser totalement la compréhension du système. Peut-être aussi parce que de nouveaux modèles risqueraient de leur donner des réponses qu'ils n'ont pas envie d'entendre. Un autre argument consiste à dire que l'investissement d'une entreprise privée a pour objectif son propre bénéfice futur et donc la création future de richesses. Cette obligation de création future de richesses, futur bénéfice, est intimement liée à la notion de risque. Parce que les actionnaires, quand ils financent un déficit momentané, un investissement, perdent du pouvoir d'achat, ils sont extrêmement motivés à le récupérer. Ainsi, ils ne financent que des projets qui ont de très grandes chances de créer de la richesse. L'État, quant à lui, ne cherche pas forcément à devenir bénéficiaire. Il n'a pas non plus d'actionnaire qui le pousse aux fesses pour ne financer que des projets rentables, donc créateurs de soi-disant richesses, de l'intérêt de sortir parfois de la logique des marchés. Ici encore, il s'agit d'un très mauvais raisonnement. La création de richesses ne doit pas s'envisager au niveau micro, mais bien au niveau macro. La question n'est pas de savoir si le déficit de l'État permet ou permettra la création de richesses par l'État lui-même, mais plutôt s'il permet la création de richesses d'une manière générale. Or, comptablement, la réponse est toujours oui. Le déficit de l'État, tout comme celui de n'importe quel autre agent économique, correspond nécessairement aux bénéfices de quelqu'un d'autre. La bonne question est donc, qui sont ces quelqu'un d'autre? Et là, nous sommes au cœur d'une question politique de taille. S'agit-il des travailleurs pauvres, des classes moyennes, des grandes entreprises qui augmentent les dividendes, d'entreprises étrangères qui rapatrient les bénéfices dans leur pays d'origine? La réponse à ces questions dépend du type de dépenses que l'État choisit de financer par son déficit. Réagir à la crise 2, la peur de l'inflation. Je sais bien que certains d'entre vous doivent immédiatement penser à l'inflation. Les déficits des uns financent les bénéfices des autres, certes, mais que se passe-t-il si les déficits successifs de l'État provoquent la hausse des prix? À quoi bon voir ses revenus augmenter de 5%, financés par des dépenses publiques donc, si les prix augmentent du même montant? Ne risque-t-on pas de déclencher une crise inflationniste? Ce que l'on entend par inflation. Avant de répondre, il faut préciser ce que l'on entend par inflation. Nous en avons déjà parlé dans le chapitre sur le PIB. L'inflation, c'est l'augmentation des prix. Lorsque le prix d'une pomme de même qualité passe de 1 euro à 1,10 euros, on constate une inflation de 10%. L'inflation se mesure au niveau des biens et des services de la vie courante. Les aliments, les produits électroménagers, les forfaits de téléphone, les loyers, les factures d'électricité, etc. Les produits financiers et les biens immobiliers ne rentrent pas dans le calcul de l'inflation, car on ne les considère pas comme faisant partie de la vie courante. En effet, la famille française moyenne n'achète pas tous les mois des produits financiers ou des biens immobiliers. Pourtant, puisque tout le monde doit se loger, ne serait-il pas logique de tenir compte de la hausse des prix de l'immobilier dans le calcul de l'inflation? Bien sûr que oui. Cela dit, l'inflation ne mesure cette dépense de logement que par le biais des loyers. Ainsi, lorsque les prix de l'immobilier augmentent sans que les loyers ne suivent, l'inflation reste aveugle à cette augmentation de prix. Lorsque les économistes font référence au danger de l'inflation, ils ne font donc pas référence au danger des bulles spéculatives qui enflent sur les marchés de l'immobilier et des produits financiers. L'inflation se mesure dans le marché du neuf, générateur de PIB, et pas dans le marché de l'occasion, générateur potentiel de bulles spéculatives. Maintenant que la définition est posée, répondons à la question. N'est-il pas de notoriété publique que la création monétaire, la fameuse planche à billets, provoque de l'inflation? N'est-ce pas là ce que les économistes, le plus célèbre étant probablement Milton Friedman, nous ont toujours rabâché? La planche à billets provoque de l'inflation, et l'inflation est un danger pour l'économie. Planche à billets égale inflation? Pas si vite. La théorie semble si simple et a été si bien vulgarisée que nous l'avons faite nôtre. Prenez une économie dans laquelle ne sont disponibles que 100 pommes, encore elles, et imaginez que la masse monétaire soit de 100 euros. Quel est le prix d'une pomme? Intuitivement, on a envie de répondre 1 euro. Que se passe-t-il si on injecte 50 euros dans cette économie? Eh bien, parce que 150 euros cherchent à acheter 100 pommes, le prix de celle-ci grimpe à 1,50 euros. Conclusion, ajoutez de la monnaie dans une économie et vous obtenez de l'inflation. Convaincu? J'espère que non. Pour tenir la route, cette théorie doit faire de nombreuses simplifications que voici. Premièrement, empiriquement, cela ne fonctionne tout simplement pas. De la nouvelle monnaie est créée chaque jour par les banques de dépôt via leur activité de crédit et on ne constate pas d'inflation généralisée. Depuis la création de l'euro, la quantité de monnaie en circulation a été multipliée par 5, tandis que les prix ont été multipliés par 1,4. Autrement dit, la quantité de monnaie a augmenté 3,5 fois plus vite que les prix. Deuxièmement, dans mon exemple, On suppose que les entreprises productrices de pommes fixent le prix de ces dernières à 1 euro parce que 100 euros tentent d'acheter leur production, qui se trouve être de 100 unités. Ici, on suppose que la totalité de la monnaie est utilisée pour acheter des pommes. Or, dans le monde réel, une bonne partie de la monnaie dort sur des comptes courants ou des comptes offshore, sans être utilisée. L'utilisation pour la consommation de la masse monétaire dépend largement de sa répartition. Les entreprises, même si elles peuvent théoriquement avoir accès à l'information de la quantité de monnaie en circulation, il faut quand même bien s'y connaître, n'ont aucun moyen de prédire quel pourcentage servira à acheter leur production. Cela est encore plus vrai dans un monde où les produits existants sont immensément variés, où les goûts et les modes évoluent rapidement, et où les entreprises sont en compétition pour attirer l'attention des consommateurs. Troisièmement, en expliquant que les entreprises fixent leurs prix parce qu'elles constatent que 100 euros ou 150 euros tentent d'acheter leur production de 100 pommes, on suppose qu'il existe un marché des pommes qui offre un accès total à l'information. En effet, pour que toutes les entreprises productrices de pommes décident en même temps de fixer leur prix à 1 euro ou 1,50 euro, il faut qu'elles soient au courant que la demande totale de pommes est de 100 euros ou de 150 euros et que la capacité de production totale est de 100 pommes. On suppose donc que les consommateurs indiquent explicitement aux entreprises le budget dont ils disposent pour acheter des pommes, et que les entreprises, parce qu'elles connaissent les capacités de production de leurs concurrents, connaissent le niveau de production totale de pommes. Or, cela n'est jamais vrai. Même sur un marché mondial organisé où tout le monde peut explicitement indiquer les quantités qu'il souhaite acheter et vendre, comme celui du pétrole, il y a toujours de grandes incertitudes sur l'état de la demande et des capacités de production. Quatrièmement, on suppose que la production de 100 pommes est fixe et maximale. Autrement dit, ajouter de la monnaie dans la poche de la population par la création monétaire ne peut pas provoquer une augmentation de la consommation, car les entreprises produisent déjà au maximum de leur capacité. Or, cette hypothèse est fausse. Dans le monde réel, les usines ne tournent jamais à 100% de leur potentiel. Les producteurs savent bien que la demande peut varier et ils dimensionnent leurs outils de production pour être flexibles. Cela signifie que, dans une certaine mesure, les entreprises peuvent tout à fait répondre à une hausse de la demande sans augmenter leur prix. Bref, je pourrais multiplier les exemples, mais je pense que vous avez compris l'idée. Cette histoire de prix qui évolue en corrélation avec la masse monétaire n'a de sens que dans des modèles mathématiques ultra simplificateurs. En réalité, on n'a jamais constaté aucun lien de cause à effet direct et simple entre l'évolution de la masse monétaire et l'évolution des prix. Cela dit, si l'utilisation de la planche à billets ne cause pas l'inflation, alors d'où vient cette dernière? D'ailleurs, quels sont les véritables dangers de l'inflation? Qu'est-ce qu'une crise inflationniste? Parce que la peur de l'inflation est profondément ancrée dans les esprits de certains, il est important de bien comprendre cette notion, ce à quoi nous allons nous atteler au chapitre suivant.